Bonjour, Jean Rostand de l'Académie française était le fils du dramaturge Edmond Rostand, lui aussi de l'Académie française, à qui l'on doit le fameux Cyrano de Bergerac. Le fils, Jean, lui, a préféré s'orienter vers les sciences de la nature et tout particulièrement vers les insectes, les crapauds et les grenouilles. Il demeure l'un des plus notables biologistes et entomologistes de France. Né à Paris le 30 octobre 1894 et décédé en 1977, il a été élu à l'Académie française en 1959, à 65 ans donc, au fauteuil précédemment occupé par le président Édouard Herriot, fauteuil numéro 8, dont le titulaire aujourd'hui est l'écrivain Michel Déon. Jean Rostand est l'auteur d'une œuvre scientifique abondante, exceptionnelle même, de grande notoriété et parmi ses nombreux titres, nous avons choisi non pas un livre, mais une brochure, édité en 1936 par Flammarion dans la collection Voir et Savoir, une brochure au papier tout jauni offrant un texte inédit de Jean Rostand et 152 photographies, ce qui pour l'époque devait être assez rare. Pourquoi avoir choisi la brochure intitulée « Insectes » ? Parce que vous allez l'entendre, grâce au comédien Fernand Guillot qui va vous en donner lecture, Jean Rostand raconte sa passion pour les insectes, mais aussi sa fascination pour ces êtres vivants, généralement de petite taille, mais dont l'utilité pour la science est immense.
Nul ne peut ignorer l'insecte. Il se rappelle à qui serait tenté de le négliger. Il s'insinue partout. Il tient le jardin, la rue, la maison. Contre lui, on doit se défendre car il en veut à nos aliments, à nos vêtements, à nos fleurs, à notre peau. Si l'insecte ne représente guère au profane que menace ou incommodité, il exerce sur le naturaliste et même sur le simple curieux des choses naturelles une séduction particulière. On compte 100 amateurs d'insectes pour un de crustacés ou de coquilles. Personnellement, c'est par l'insecte que la nature, tout d'abord, me captiva. Il est mêlé à toute mon enfance. Quelles impressions ineffaçables je devais garder de mes premiers contacts avec lui. Je me souviens encore, après 30 années, de l'émerveillement que j'eus à découvrir, sur un arbuste des bords de la Nive, ce saphir céruléen qu'est le mâle de l'Oplie. Je revois le coin de pelouse grillée où je nouais connaissance avec le cryptocéphale et le petit tertre sablonneux où j'exhumais un géotrupe au ventre grouillant de vermine rosée. À cet âge où le monde ne m'était encore qu'un jardin, un jardin ne m'était qu'un vaste insectarium lumineux, et j'aurais tout abandonné pour courir la libellule ou pour dénicher le grillon. Je m'enthousiasmais aux souvenirs entomologiques de Fabre, de ce grand Fabre qu'il est de mode aujourd'hui de rabaisser et à qui de petits savants, offusqués par son trop de popularité, reprochent de petites inexactitudes. Un savant amateur pyrénéen m'initiait à la récolte et à la collection des coléoptères. Il avait découvert une nouvelle espèce de rhizotrogue et cet homme modeste et doux, qui avait donné son nom à un être vivant, devait longtemps m'apparaître comme l'une des images les moins équivoques de la gloire. Étant de ces esprits peu sérieux que les mœurs d'un moucheron soucient davantage que les destins d'un empire, je crois bien que je me fusse passionné pour l'étude de la vie infime alors même qu'elle ne pourrait mener à rien à qui la dépasse. Mais l'entomologie ne laisse point d'avoir une haute portée. Que ceux-là se rassurent, qui, se sentant du goût pour la petite bête, ferait conscience de se vouer à un objet trop menu. Nous ne sommes plus du temps où l'entomologiste passait pour un doux maniaque. Combien savons-nous de précieuses découvertes qui sortirent de la boîte peinte en verre, sans parler même de la dignité fatale que confère à l'insecte son rôle de propagateur des maladies. Son importance s'affirme chaque jour dans le domaine de la biologie théorique. La variété de ses structures et de ses mœurs est extraordinaire. Nulle part on ne rencontre de créatures si petites et si industrieuses. Nulle part le contraste n'est si éclatant entre l'humilité des dimensions et la complexité des comportements. L'insecte constitue une des grandes réussites vitales. En lui, l'instinct touche à ses sommets comme l'intelligence dans l'homme. La seule existence du dernier des insectes pose plus de problèmes que n'en peut résoudre notre science et rêver notre philosophie. Dans les plus hauts débats spéculatifs, chaque objet vivant est un témoin. Et le plus humble ne détient pas le moindre secret. La classe des insectes est la plus riche de tout le règne animal. On y a déjà identifié plus de 500 000 espèces, et nul doute qu'il n'en reste une foule à décrire, voire à découvrir. Le nom d'insecte, contraction d'intersecte, leur vient de ce qu'ils ont le corps divisé en segments, en anneaux. Dépourvus de squelette interne, ils sont des invertébrés et qui se rangent parmi les arthropodes car ils portent des pattes sur quelques-uns de leurs anneaux. Ils ont tous trois paires de pattes thoraciques et, pour la plupart, une ou deux paires d'ailes, du moins dans leur état définitif. On ne pourrait guère les confondre qu'avec d'autres arthropodes terrestres, araignées, cloportes, mille pattes. Mais on les en distingue rien qu'au nombre des pattes, qui sont 8 chez les araignées et davantage chez les autres. Encore que la classe soit essentiellement terrestre, beaucoup d'insectes vivent dans les eaux douces et même dans certaines eaux salées. Sauf les allopathes des mers chaudes, pas un n'habite l'océan, alors qu'ils en supporteraient parfaitement le degré de salinité. L'insecte est extrêmement ancien. Des millions de générations séparent les espèces contemporaines de celles qui ont laissé leurs traces dans les terrains du Carbonifère. On tente à les faire dériver d'autres arthropodes aquatiques, mais certains naturalistes préfèrent les rattacher aux annélides. Sur les prémices de la classe, nous ignorons tout. À l'époque secondaire, vivaient déjà des sortes de punaises, des blattes, de grands phasmes, des libellules géantes. Plus tard apparurent des scarabées et des papillons. Beaucoup d'insectes n'ont, pour ainsi dire, pas changé depuis l'époque tertiaire. Pour prendre une idée de leur diversité, il suffit d'évoquer quelques-uns de ceux que chacun connaît, hannetons, libellules, papillons, punaises, mouches, poux. Il en est d'aptères et d'ailés, de durs et de mous, de ternes et de colorés, de trapus et de minces, de lisses et de rugueux. Leur taille varie entre des limites étendues. L'insecte peut nous rendre de gros services quand il s'agit de réparer le mal qu'il a lui-même causé. Mais c'est là un mérite négatif. N'en a-t-il point de positif ? Il en a bien quelques-uns, mais d'ordre secondaire. Quelques insectes contiennent ou produisent des substances exploitables par l'homme. La cochenille du nopal, d'origine mexicaine, fournit une belle matière rouge, d'où l'on tire le carmin, et qui, malgré la concurrence qui font actuellement les couleurs d'aniline, sert encore à la teinture de certaines étoffes. La valeur économique de la cire et du miel, produits par l'abeille, n'est point négligeable. En Suisse, les apiculteurs récoltent annuellement 2 millions de kilos de miel d'une valeur marchande de 8 millions de francs. Le ver à soie, élevé en Chine depuis des milliers d'années, perd chaque jour de son importance. En 1853, la France a produit jusqu'à 26 millions de kilogrammes de cocons frais. En 1931, dans l'annuaire général de statistiques, la production des cocons frais n'était plus que de 9 967 quintaux d'une valeur de 4,8 millions. On a quelque peu utilisé les insectes comme objet d'ornement, de parure, de décoration. Leur valeur culinaire semble mince, elle est en tout cas peu exploitée. Les Hébreux mangeaient les sauterelles et les Grecs les cigales, tandis que les Romains faisaient leur délice des larves du grand capricorne. Fabre, ayant eu la curiosité de goûter une grillade de ces dernières, en atteste l'excellence. Une certaine saveur d'amande grillée que relève un vague arôme de vanille. La médecine est redevable à l'insecte de quelques drogues. On a mis à profit les propriétés vésicantes de la cantharidine, substance âcre et toxique, qui se trouve dans le corps d'un coléoptère. La mode est aujourd'hui au venin, et voici qu'à la suite des homéopathes, on use du venin d'abeille contre les rhumatismes et autres affections rhumatoïdes, lumbago, sciatique. Ce venin, comme celui des serpents, exerce une action apaisante sur les nerfs. Les méfaits de l'insecte l'emportent, et de beaucoup sur ses services. Il ne saurait racheter ses crimes avec un peu de carmin, de miel ou de soie, et même pour avoir sauvé un peuple de corolles, se faire pardonner sa collusion avec les virus meurtriers. L'insecte est notre plus grand adversaire. Il coûte annuellement à l'humanité plusieurs millions de vies. Il est, à vrai dire, le seul être vivant que nous ayons à craindre. Sa petitesse ne nous le rend que plus redoutable. Aujourd'hui, notre rival, peut-être sera-t-il demain notre successeur, si nous ne réagissons contre sa menace, éloquemment dénoncée par le livre du naturaliste Howard. Le seul titre sérieux qu'est l'insecte à notre gratitude, c'est le rôle qu'il joue en tant que matériel de recherche dans le développement des sciences naturelles. Il doit lui être pour cela beaucoup pardonné, et l'on conviendra que ses services d'informateur réparent quelques-uns de ses méfaits s'il est vrai que toutes les disciplines se compénètrent et que la médecine elle-même est tributaire de la biologie. Des chapitres entiers de cette science sont issus de l'entomologie. C'est sur l'insecte que Wilson a fait les premières observations décisives sur les chromosomes sexuels, que Marshall a découvert la polyembryonie et Wagner la pédogénèse. Les grandes généralisations de la génétique n'eussent pas été possibles sans la petite mouche du vinaigre. Enfin, n'oublions pas que l'insecte a inspiré quelques grands livres évocateurs depuis Michelet jusqu'à Maeterlinck.
Vous venez d'entendre un extrait du texte de Jean Rostand intitulé « Insectes ». Cette revue est encore disponible chez les libraires spécialisés. Signalons aussi que l'on peut encore trouver chez certains libraires le « Bestiaire d'amour » écrit par Jean Rostand de l'Académie française et illustré par Pierre-Yves Trémoy de l'Académie des Beaux-Arts. En effet, en mai 1957, Pierre-Yves Trémoy demandait à Jean Rostand s'il accepterait de traiter le sujet des relations amoureuses chez les animaux en un bestiaire d'amour. Le célèbre entomologiste accepta et Pierre-Yves Trémoy, âgé à l'époque de 36 ans, se mit à graver, comme il l'avait fait pour d'autres éditions de luxe à tirage limité et avec le talent exceptionnel qui établit sa réputation internationale, 22 planches pour l'édition originale tirée en 1958 à 175 exemplaires. Et cette même année, 1958, l'éditeur Robert Laffont publia, avec enthousiasme, une édition plus grand public offrant la reproduction de quelques planches de l'édition originale, et notamment un portrait de Jean Rostand inouï avec une grenouille sur la tête et les 200 dessins de Pierre-Yves Trémois spécialement composés pour cette édition. On ne saurait trop vous conseiller de tenter par tout moyen de vous procurer ce bestiaire d'amour. Ajoutons enfin que Canal Académie vous propose aussi quelques petites phrases et citations de Jean Rostand, extraites de son « Ce que je crois » paru chez Grasset en 1953. Merci d'avoir choisi Canal Académie. À bientôt !